Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
Les titres de l'actualité de ce mardi 21 juin 2022. L'inflation prévue à 7% cette année en Australie. Conséquence, les taux d'intérêt vont augmenter. Un revers pour Emmanuel Macron deux jours après les élections législatives. Le chef de l'État français perd sa majorité absolue à l'Assemblée nationale. Le Parlement israélien pourrait être dissous dès la semaine prochaine. Pour faire face à l'instabilité politique dans laquelle le pays est plongé, la coalition au pouvoir veut provoquer des élections anticipées. Et enfin, aujourd'hui, ce sont les 40 ans de la fête de la musique, 40 ans d'un événement imaginé en France par le ministre de l'époque, Jack Lang, qui s'est aujourd'hui exporté dans 120 pays, dont l'Australie. On le disait en titre, il faut se préparer dans les prochains mois à des taux d'intérêt plus élevés pour lutter contre l'inflation. Déclaration faite par le gouverneur de la Banque centrale australienne, Philip Lowe. Pas de récession en vue, a-t-il tenu à rassurer, mais l'inflation devrait atteindre cette année 7% contre un objectif national de 3% en temps normal.
It's going to be some years, I think, before inflation's back in the 2 to 3% range, but it will, over the next couple of years, it will gradually come down, and that's what's important, that we chart this path back there and people have confidence that we'll do that.
Les enfants australiens âgés de 6 mois à 5 ans pourraient bientôt être éligibles au vaccin contre le Covid-19. C'est le laboratoire Moderna qui souhaite administrer ces doses et la Therapeutic Goods Administration envisage de lui accorder, selon le ministre de la Santé Mark Butler, une vaccination qui pourrait être mise en place d'ici quelques mois. On écoute Mark Butler, il s'exprimait chez nos confrères de ABC.
The Therapeutic Goods Administration has an application from Moderna, which they're currently going through. If that is approved, then that will go, as I said, to our advisory group on vaccinations. Now, I don't control that time frame. I think it's appropriate that those authorities feel that they are able to conduct their work, their legislative work, in a time frame that's proper. And I'd expect that to happen over coming weeks.
Direction la France et ils vont défiler deux jours durant à l'Élysée. Ils, ce sont les représentants des forces politiques présentes dans la nouvelle Assemblée. Ils sont invités par Emmanuel Macron pour définir une stratégie dans l'intérêt des Français, précise la présidence. Deux jours après son revers aux élections législatives, le chef de l'État, qui a perdu, rappelons-le, sa majorité absolue dans l'hémicycle, monte au front Julien Chavanne.
Son silence était assourdissant. 24 heures après la gifle des législatives, Emmanuel Macron tente de reprendre le volant. Le chef de l'État veut, selon les mots de l'Élysée, dialoguer, échanger pour l'intérêt supérieur de la nation. Les Républicains, le Rassemblement national et bien sûr les composantes de la NUP vont donc défiler dans les salons de la présidence. Des tête-à-tête qui se veulent une main tendue de la part d'Emmanuel Macron, piégé par les scores de la gauche et de l'extrême droite. Le président tout juste réélu n'a pas le choix, il doit redescendre dans l'arène. Son gouvernement est fragilisé, sa première ministre en sursis, son dernier quinquennat en danger. Alors Emmanuel Macron va sans doute aussi profiter de ses rendez-vous pour sonder la droite sur la possibilité de s'entendre sur certaines réformes et pourquoi pas imaginer de futurs accords. Scénario idéal, optimiste pour l'exécutif, désormais condamné à composer avec des oppositions plus fortes que jamais.
Et hier, il y avait comme un air de rentrée des classes au Palais Bourbon, tout du moins pour les 302 députés entrants, 302 députés sur les 577 élus qui entament leur tout premier mandat. Émotion, excitation, découverte des lieux, Pierre-Olivier a suivi leur premier pas à l'Assemblée nationale pour Radio France Internationale.
Pour ces députés encore inconnus à l'Assemblée, il faut d'abord montrer patte blanche pour rentrer.
Mathieu, avec un seul T.
Merci infiniment.
Une fois à l'intérieur, il faut se repérer dans les couloirs interminables, trouver le bureau ou récupérer une petite sacoche bleu marine qui contient les affaires du député. Rodrigo Arenas, 48 ans, vient d'être élu à Paris pour la NUPES.
C'est un peu comme une rentrée des classes parce que vous êtes un peu perdu quand même. Et on nous a transmis en fait tout le matériel pour travailler. Bah, y a le règlement, y a du matériel informatique, il y a évidemment l'écharpe.
La fameuse écharpe tricolore, celle d'élu de la nation. Charles Rodwell, 25 ans, fraîchement élu pour Ensemble dans les Yvelines, montre son écharpe avec beaucoup de fierté.
Être élu député de la terre sur laquelle
j'ai grandi, sur laquelle je vis. C'est vrai que là, c'est particulièrement touchant.
Parmi ces nouveaux députés, beaucoup d'impatients aussi qui n'ont qu'une envie, commencer les débats. C'est le cas de Benjamin Lucas, 31 ans, élu NUPES dans les Yvelines.
C'est émouvant, c'est un lieu chargé d'histoire pour la République, mais il ne faut pas qu'on se laisse impressionner par les dorures et la pierre, parce que les combats qui nous attendent impliquent qu'on se mette au travail dès maintenant.
Les députés ont jusqu'à mercredi pour séjourner découverte à l'Assemblée, puis dès la fin de la semaine, les choses sérieuses commenceront avec la formation des groupes parlementaires et l'élection de leur président.
Et les élections législatives en France, c'est justement le thème de la première partie de notre Europa Voice numéro 99 que nous avons tourné hier avec Nathanaël Bloch. Un épisode à retrouver en ligne, bien sûr, sur notre site sbs.com.au/french ou alors dans quelques instants sur Radio SBS, juste après ce journal. Dans l'actualité internationale également, on le disait en titre, et bien après des semaines d'instabilité politique en Israël, le gouvernement va sans doute bientôt tomber. La coalition au pouvoir dirigée par le Premier ministre Naftali Bennett et le chef de la diplomatie, Yair Lapid, ont annoncé la dissolution du Parlement. Les deux hommes doivent d'abord soumettre au vote de la Knesset un projet de loi de dissolution. Ce sera fait la semaine prochaine et cela devrait entraîner des élections législatives anticipées. À Jérusalem, la correspondance de Sami Boukhelifa, RFI.
Le scrutin législatif doit être organisé dans un délai de 3 mois. Mais il y a toutefois une autre possibilité, que quelqu'un parvienne à former un nouveau gouvernement durant cette période. Ce quelqu'un, c'est bien entendu l'ancien Premier ministre Benjamin Netanyahou. Converti en chef de file de l'opposition, il attendait ce moment avec impatience. Celui que les Israéliens surnomment Bibi avait juré de revenir au pouvoir et même de faire tout son possible pour faire tomber le gouvernement actuel, fruit d'une coalition inédite. Cet exécutif rassemble des partis de la droite, du centre, de la gauche et même un parti islamiste. Un attelage unique dans l'histoire de l'État hébreu. Tous ces partis s'étaient rassemblés avec pour seul objectif commun, chasser du pouvoir l'ancien Premier ministre Benjamin Netanyahou. Mais après une année, ils n'auront pas su surmonter leurs différends. En vertu de l'accord de coalition, c'est l'actuel ministre des Affaires étrangères, Yair Lapid, qui assurera l'intérim et qui remplacera donc le chef du gouvernement sortant, Naftali Bennett.
Au 117e jour de guerre, l'Ukraine accuse la Russie d'avoir encore intensifié ses bombardements dans l'est du pays. Les forces ukrainiennes annoncent avoir perdu le contrôle de Metolkin, un village proche de Severodonetsk. Moscou, de son côté, accuse Kiev d'avoir frappé en retour des plateformes de forage en mer Noire au large de la Crimée. Le gouverneur local installé par Moscou après l'annexion de la péninsule en 2014 fait état de 3 blessés et 7 portés disparus. Et dans ce contexte, l'Ukraine a annoncé qu'elle allait restreindre considérablement la place de la musique russe sur ses ondes et dans les lieux publics. L'importation de livres publiés en Russie va également être interdite. 2 textes de loi ont été adoptés ce week-end par le Parlement ukrainien. Daniel Valo.
Le premier des 2 textes de loi prévoit d'interdire la musique russe à la télévision, à la radio, dans les écoles, mais aussi dans les lieux et les transports publics. Attention, cette interdiction ne visera que les compositeurs ayant acquis la nationalité russe après 1991, c'est-à-dire après l'indépendance de l'Ukraine. Ce sont donc les productions récentes qui sont visées et non pas le patrimoine russe dans son ensemble. Et il sera toujours possible d'écouter dans un hôtel de Kiev une sonate de Tchaïkovski ou une symphonie de Chostakovitch. Enfin, les parlementaires ukrainiens prévoient des dérogations pour les artistes russes qui en feraient la demande auprès des services de sécurité, mais à condition de déclarer leur soutien à la souveraineté du pays. Concernant la littérature, le 2nd texte de loi interdit l'importation de livres publiés en Russie et en Biélorussie et prévoit un système d'autorisation pour tout livre écrit en russe. La législation doit encore être ratifiée par le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Lui-même est issu d'une famille russophone et a fait toute sa carrière de comédien en russe, mais rien n'indique aujourd'hui qu'il s'opposera à ces 2 textes qui s'inscrivent dans une vaste campagne de dérussification de l'Ukraine, campagne qui s'est accélérée depuis l'invasion du pays par la Russie en février dernier.
Et en parallèle, les Ukrainiens et les Russes continuent malgré tout de dialoguer sur la question des céréales ukrainiennes bloquées dans les ports de la mer Noire. Des négociations tout de même difficiles selon Volodymyr Zelensky qui en parlait hier en visioconférence aux membres de l'Union africaine.
This war may seem very distant to you and your countries, but catastrophically rising food prices have already brought it home to millions of African families, as well as to many families in Asia, Europe, Latin America. The unjust and provoked by the Russian war level of food prices is painfully felt on all continents. Unfortunately, this can become a particular problem for your countries.
On prend la direction à présent de la Libye et il serait 600 000 exilés soumis à l'enfermement et à l'esclavage d'après les organisations internationales. Désormais, les gardes-côtes et les milices libyennes interceptent une majorité de personnes qui tentent de fuir le pays vers l'Europe et les renvoient directement en centre de détention. Hier, c'était la journée mondiale des réfugiés et pour cette occasion, Médecins sans frontières, qui intervient dans le pays, donc en Libye, a publié un rapport sur le manque de protection des exilés et la faiblesse des dispositifs leur permettant de sortir du pays. MSF qui appelle à accélérer l'évacuation des plus fragiles, notamment grâce aux couloirs humanitaires. Juliette Gerbrand.
2 ans, c'est ce qu'il faut attendre parfois pour qu'un processus de réinstallation du Haut Commissariat aux réfugiés aboutisse. L'an dernier, seuls 1662 exilés ont pu quitter l'enfer libyen dans ce cadre, sur environ 40 000 enregistrés par l'organisation. Or, Médecins sans frontières estime que seule l'évacuation permet de mettre les exilés en sécurité et d'assurer le suivi des soins qu'elle prodigue à Tripoli, dans les centres de détention, ainsi qu'à Zouara, Misrata et Beni Walid, avec des cliniques mobiles. Pour accélérer ces évacuations, d'autres moyens existent, et notamment les couloirs humanitaires, plaide MSF. Initié par l'organisation privée Sant'Egidio, ce dispositif fonctionne déjà avec le Liban et l'Éthiopie, et la France y participe d'ailleurs. Étendre le dispositif à la Libye est urgent, explique MSF. L'Italie a commencé et l'organisation espère que d'autres pays suivront. Elle échange notamment avec les autorités françaises. En Libye, les violences contre les civils et les exilés pourraient relever de crimes contre l'humanité, écrit l'ONU dans un rapport, tandis que la Commission européenne suggère aux États membres de développer des voies complémentaires pour réduire les routes migratoires dangereuses et illégales.
On termine ce journal par un anniversaire. 40 ans, ce sont les 40 ans de la fête de la musique. Cet événement, célébré tous les 21 juin, a été créé par Jack Lang, alors ministre de la Culture de François Mitterrand. C'était en 1982. D'abord en France seulement, la fête de la musique s'est depuis exportée dans 120 pays. Retour sur ce franc succès avec Isabelle Chenu.
C'est la fête de la musique, c'est tout. Mon instrument, c'est la casserole, la fourchette et la bouteille de limonade vide. Ça donne...
Ah, la fête de la musique. À son lancement en 1982, l'idée paraît saugrenue et la presse ironise. Le ministre de la Culture, Jack Lang, propose aux Français de descendre dans la rue de 20h30 à 21h pour chanter ou jouer d'un instrument. L'intéressé raconte avoir eu le trac de sa vie en imaginant que personne ne viendrait. Le succès est pourtant immédiat.
Je rêvais que les citoyens soient les auteurs ou les inventeurs d'un événement qui serait le leur. Il y avait déjà à ce moment-là des milliers de groupes d'amateurs dans toutes les disciplines, dans tous les domaines de la musique. Je voulais que ce soit un moment où chacun puisse apporter son talent, son énergie, son imagination.
Aujourd'hui, la fête de la musique a fait le tour du monde sous l'impulsion de son créateur. 120 pays et quelques 350 villes participent à ce rendez-vous du 21 juin. En France, en 40 ans, l'événement est devenu peut-être un peu moins spontané, mais toujours aussi festif et populaire, avec de grandes scènes réunissant pratiques amateurs et professionnels.
La fête de la musique est exportée dans 120 pays, donc, dont l'Australie, bien sûr, et des concerts sont organisés toute la journée, notamment à Sydney. Pour tout savoir, rendez-vous sur notre site internet sbs.com.au/french. Nous avons interviewé Karine Maurice, l'attachée culturelle de l'ambassade de France, et elle nous détaille le programme de la journée. Un point météo à présent, sur ce mardi après-midi. À Perth, il fait 22 degrés, Adélaïde 16, Melbourne 15, Hobart 14, Canberra 12, petit degrés, Sydney 20 degrés et ensuite ça monte, Brisbane 23, Cairns 26 et à Darwin comptez 33 degrés. Le rappel des titres, l'inflation prévue à 7% cette année en Australie, conséquence les taux d'intérêt vont augmenter. Un revers pour Emmanuel Macron 2 jours après les élections législatives, le chef de l'État français perd sa majorité absolue à l'Assemblée nationale. Et enfin, le Parlement israélien pourrait être dissous dès la semaine prochaine. La coalition au pouvoir veut en effet provoquer des élections anticipées.
Vous aimez le programme en français? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/sbsfrench.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.